Et bonjour à tous. Et si la Covid-19 n'était que le début d'une série de pandémies? C'est l'hypothèse que formulent des chercheurs qui s'intéressent aux zoonoses, autrement dit aux maladies qui nous sont transmises par les animaux. Bonjour Anne Brunel.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Vous avez donc enquêté pour comprendre ce que sont ces zoonoses et surtout pourquoi on risque d'en voir apparaître de nouvelles et de plus en plus dans les années qui viennent.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
La Covid-19 est une maladie d'origine animale. Mettre des professionnels de la santé animale qui travaillent sur les zoonoses dans les discussions et les travaux et aide à la gestion de crise de cette maladie me paraît assez logique.
Voilà, c'était il y a 10 jours. Le vétérinaire Thierry Lefrançois vient d'être nommé au Conseil scientifique sur la Covid-19. Un an après le début de l'épidémie, on reconnaît donc que le regard d'un expert en questions animales peut s'imposer. Cette nomination, faut savoir qu'elle était souhaitée depuis longtemps par bon nombre de ses confrères, parce que je vous le disais, la Covid-19, c'est une zoonose. Alors, en quelques mots, pour préciser les choses et pour commencer, Anne Brunel, on va peut-être expliquer tout simplement ce qu'est une zoonose.
Alors c'est très simple, hein. Les zoonoses, ce sont des maladies ou des infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. Ça peut nous être transmis par des bactéries, des virus ou des parasites.
Et à part la Covid-19, qu'est-ce qu'on peut citer comme zoonose ?
Eh bien la rage par exemple, hein, c'est une zoonose, mais aussi la maladie de Lyme, le sida, la fièvre Ebola qui vient de redémarrer en Afrique de l'Ouest, ou encore plus banalement des grippes, dont les virus proviennent de la grippe aviaire qui, elle, touche les volailles.
Vous parlez de la grippe aviaire, il se trouve justement que nous sommes en ce moment sous la menace d'une nouvelle forme de grippe aviaire.
Oui, ça fait 4 mois déjà que la grippe H5N8 touche les volailles en France. Dès le début novembre, 45 départements français sont placés en état d'alerte risque élevé. Ça signifie que toutes les volailles domestiques doivent être mises à l'abri afin d'être préservées de la contagion des oiseaux sauvages.
Oui, parce que ce sont eux, ces oiseaux, qui nous l'amènent, ce virus.
Oui, ce sont les oiseaux migrateurs qui contaminent ensuite les élevages. Et ça, c'est quelque chose qui était largement repéré par les vétérinaires, comme le professeur Jean-Luc Guérin, de l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Il y avait, explique-t-il, des signaux d'alerte depuis l'été dernier.
Dès le mois d'août, on était parfaitement au courant de ce qui se passait en Russie, au Kazakhstan, à la fois dans le compartiment de l'avifaune sauvage et dans les élevages. Nous avons été au courant de la progression en fait de l'épidémie lors du début de la migration descendante, notamment au nord de l'Europe. C'est dans ces secteurs-là que les contaminations et les mortalités sont les plus massives.
Ouais, on a donc tracé, hein, c'est ce qu'on entend, cette grippe aviaire qui nous arrive dessus. Mais ce qu'il faut préciser, Anne, c'est que cette grippe, elle n'est pas tout à fait comme les autres.
Non, c'est vrai, parce que des épisodes de grippe aviaire, on en a connu, hein, en 2015 avec le virus H5N1. Et puis aussi pendant l'hiver 2016-2017 avec déjà un H5N8 comme cette année. Mais cette fois, le virus est encore plus féroce au point de surprendre les spécialistes comme le professeur Guérin.
Ce qu'on voit depuis l'automne, c'est des dizaines, puis des centaines et des milliers d'oiseaux qui, au nord de l'Europe, ont été trouvés morts et positifs pour le virus. Ce qui suppose une circulation, je dirais, massive et nettement plus forte que celle que nous avons connue, par exemple, il y a 4 ans. Donc ça veut dire que le risque d'introduction dans les élevages s'est quand même produit à de nombreuses reprises à l'échelle européenne.
Et cette introduction, elle a été suivie par une propagation fulgurante et on l'a très bien constaté sur le terrain. Ça.
Oui, les éleveurs, comme Serge Morat, qui préside le syndicat des éleveurs familiaux dans les Landes, en sont même effarés.
En 2017, on était sur une propagation de 5 à 10 km par semaine. Cette année, on était à 5 km par jour. Avec des taux de mortalité en 2017 à 2% sur des canards en élevage à âge égal à peu près. Et cette année, on était sur des canards d'âge équivalent, c'est-à-dire 6-7 semaines, à plus de 30%. Et sur les canetons de 3 semaines, on est monté à 66%. C'est des pourcentages qu'on n'a jamais observés, jamais. C'est fabuleux.
Ouais, c'est fabuleux, c'est une manière de dire plutôt, c'est assez incroyable. Et le problème, c'est que les volailles ne sont pas des porteurs sains du virus, Anne. Elles sont elles-mêmes victimes de la maladie.
Ah oui, une maladie qui fait des ravages, hein, et c'est un spectacle devant lequel les éleveurs, comme Serge Morat, se sentent impuissants.
Pour un éleveur, c'est une souffrance de voir les animaux dans cet état-là, parce qu'ils ont des signes nerveux d'abord, et ils commencent à perdre la vue. Ils sont totalement affolés, ils courent dans tous les sens. Puis après, ils tombent en prostration et ils meurent comme ça, avec d'énormes peines à respirer. Ça doit être assez douloureux à vivre pour eux.
Résultat, dans le sud-ouest, on dénombre à la mi-février 450 foyers de contamination. Mais pour des raisons de précaution, pour créer un cordon sanitaire, c'est dans près de 750 fermes que l'on procède à l'abattage de 3 millions de volailles, 2 450 000 canards et 560 000 autres volailles.
Autrement dit, c'est une véritable hécatombe. Maintenant, si l'on craint tant cette grippe, Anne, cette grippe aviaire, c'est aussi parce qu'elle est potentiellement une menace pour l'homme.
Oui, alors potentiellement, en effet, car ce virus H5N8 qui circule en France n'est pas transmissible à l'homme, il n'est pas zoonotique. Sauf qu'en Russie, les autorités sanitaires ont quand même détecté 7 cas de contamination humaine dans une usine de volailles.
Mais ça veut dire que là-bas, le virus a muté ?
Oui, c'est très vraisemblable, car il faut savoir qu'on a connu par le passé d'autres types de grippe aviaire qui sont ensuite devenus zoonotiques et pandémiques, comme l'explique l'épidémiologiste Marisa Père, chercheuse au CIRAD.
Les grippes humaines, donc actuelles, ont toutes émergé de l'animal. La grippe espagnole en 1918, qui a fait entre 30 et 50 millions de morts, a clairement une origine aviaire. Donc il y a 4 sous-types maintenant qui circulent chez l'homme. Donc le H1N1 qui a émergé en 1918 au moment de la pandémie de la grippe espagnole. Un deuxième sous-type, le H2N2, qui circule également chez l'homme de manière saisonnière, qui a émergé en 1958. Ça a été la pandémie de Hong Kong. Et ensuite, le dernier, le H3N2, qui a émergé en 1968, ça a été la grippe asiatique. Et plus récemment, le H1N1 pandémique, qui a émergé en 2009 et qui fait partie maintenant des virus saisonniers qui circulent chez l'homme.
Donc certains virus des oiseaux se retrouvent chez l'humain. Mais alors si ce virus, là, celui auquel on est confronté en ce moment, a priori, ne passe pas de la volaille à l'homme, comment il pourrait faire pour nous contaminer ?
Eh bien, il va falloir passer par un processus transitoire.
C'est-à-dire ?
Alors pour comprendre comment se réalisent ces transformations de virus, écoutez d'abord Gilles Salva, le directeur général de l'ANSES. La contamination directe entre oiseaux et humains, comme ce qui s'est produit en Russie, c'est effectivement, dit-il, assez exceptionnel.
C'est peu contagieux pour l'homme parce que les virus des oiseaux s'attachent sur des récepteurs, non pas qui sont sur les bronches comme les récepteurs des virus grippaux humains, mais sur des récepteurs qui se trouvent dans les poumons. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un contact très étroit avec des poussières de fientes, par exemple, contaminées, et d'inhaler ces poussières de fientes pour risquer de se contaminer. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de cas dans des pays émergents où les gens achètent des volailles vivantes et les plument eux-mêmes. Et lorsqu'on plume la volaille, effectivement, on a un risque d'aérosolisation de petites particules de fientes qui se trouvent sous les plumes et qu'on peut respirer, qui peuvent atteindre les poumons et se fixer dans les poumons et provoquer cette pneumonie grave.
Ouais, donc si je plume un poulet, je peux me contaminer. Bon, ça doit être assez rare, ça, non ?
Ah bah déjà, il faut que votre poulet soit malade pour que sa fiente contienne du virus. Mais effectivement, la plupart du temps, pour qu'un virus aviaire s'humanise en quelque sorte, il est nécessaire qu'il passe par un autre animal plus proche de l'être humain. Comme le précise Gilles Salva, c'est ce qu'on appelle alors un hôte intermédiaire.
Ce sont très souvent les cochons qui font office d'hôtes intermédiaires, parce que les cochons sont sensibles au virus humain. Par exemple, le H1N1 pandémique de 2009, on a des cochons qui ont pu l'attraper. Et donc un cochon peut être contaminé simultanément par des virus du cochon et des oiseaux, ou de l'homme et des oiseaux. Et quand une même cellule est contaminée par deux virus différents, il peut sortir des virus encore différents de cette cellule. Et ces virus chimères réassortis, on appelle ça le réassortiment, peuvent être mieux adaptés à l'homme, parce que quand c'est adapté au cochon, c'est mieux adapté à l'homme, parce qu'on a peu ou prou les mêmes températures corporelles, donc les mêmes températures de réplication pour les virus. Après, il y a d'autres intermédiaires qu'on peut avoir. Encore une fois, les mustélidés, les furets, par exemple, sont un bon modèle, et des virus grippaux, et peuvent être infectés par des virus grippaux de différentes espèces.
Oui, le souci, c'est qu'une fois qu'il s'est transmis à l'homme, ce virus, eh bien, on se le transmet ensuite entre humains, et c'est justement pour éviter ça qu'on abat les volailles qui sont contaminées.
Et oui, parce que si on laisse un virus prospérer, il peut évoluer, connaître des mutations, et devenir de plus en plus virulent au rythme de sa transmission, selon un processus que décrit le professeur Jean-Luc Guérin de l'École nationale vétérinaire de Toulouse.
Si on laisse ces virus évoluer sur un pas de temps plus long, à l'échelle d'années, il y a un risque que ces virus évoluent pour devenir plus virulents. C'est pour ça qu'on met en œuvre des mesures d'élimination des animaux infectés pour tarir en quelque sorte ce réservoir de gènes pour éviter qu'un jour on ait émergence d'un virus à partir du H5N8 qui circule actuellement.
Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu qu'un animal peut transmettre un virus à l'homme, un virus qu'on dit zoonotique, on va voir que la réciproque est possible, Anne Brunel, c'est-à-dire que nous aussi, lorsque nous sommes infectés, nous pouvons contaminer des animaux.
Ah oui, la Covid-19 en est un bon exemple. Écoutez Gilles Salva, le directeur général de l'ANSES, énumérer quels animaux ont été victimes de cette contamination et lesquels l'ont en retour transmise à l'homme.
Les premiers cas qu'on a pu avoir sur des animaux domestiques étaient des chiens, qui sont une espèce peu réceptive et peu sensible, donc pas de risque de transmission du chien à l'homme. Ensuite, on a eu pas mal de chats qui ont été contaminés, et avec quelques inquiétudes qu'on a pu lever, parce que les chats, ils sont réceptifs et sensibles, par contre ils sont peu excréteurs, donc en fait ils ne vont pas transmettre le virus à l'homme, ils sont plutôt victimes du virus qui a attrapé leur propriétaire. Il n'y a vraiment pas de risque de retour vers l'homme. Alors après, les félins en général ont montré qu'ils étaient réceptifs et sensibles avec parfois des symptômes. On a eu des tigres qui ont été contaminés, des lions dans des zoos. Donc c'est une espèce réceptive, mais pour autant c'est une espèce qui ne va pas retransmettre le virus à l'homme.
Bon, cela dit, il est assez rare en général qu'on aille caresser un tigre ou un lion. Maintenant, il y a d'autres animaux, on y faisait référence il y a un instant d'ailleurs, qui eux sont très réceptifs au virus, qui sont plus proches de nous et qui sont très contaminants.
Oui, c'est le cas de certains petits mammifères qu'on appelle les mustélidés, les loutres, belettes, blaireaux, furets et surtout les visons, particulièrement les visons d'élevage dont la fourrure est si prisée.
Et il y a eu justement en France récemment un élevage contaminé par la Covid-19.
Oui, alors ça se passe au mois de novembre en Eure-et-Loire, dans une ferme d'élevage de visons d'Amérique d'environ 5000 têtes. C'est un petit élevage familial implanté depuis plus de 30 ans dans la région de Chartres. Jean-Marc Bernard, son propriétaire, est déjà proche de la retraite quand la contamination est décelée parmi ses animaux. Il m'a raconté comment il l'a découverte.
Le gouvernement français a fait réaliser des prélèvements sanguins. J'ai été averti par l'inspecteur vétérinaire qui me suit. Donc il m'a prévenu que mes animaux étaient positifs. Parce que moi j'étais, si vous voulez, en plein abattage. On avait commencé l'abattage le 7-8 novembre. L'abattage normal. Et j'étais arrivé à la moitié déjà, plus de la moitié même. Tous les poumons ont été, comme ils étaient dans le même frigo, réquisitionné,
ce qui veut dire abattu et incinéré. Mais est-ce qu'on sait, Anne, comment ces animaux ont été contaminés?
Très probablement par l'éleveur lui-même, vu qu'il n'a pas d'employé. Jean-Marc Bernard ne le dément d'ailleurs pas, même s'il émet aussi d'autres hypothèses.
C'est moi qui l'ai eu, puis que je m'en suis pas aperçu. Il y a moi, il y a une intrusion que j'ai eue. J'ai eu une intrusion dans l'élevage début du mois de novembre pour lequel j'ai porté plainte. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? On ne sait pas. Et puis, bon, ça peut être aussi des chats, ça peut être... On ne sait pas.
Ouais, on ne sait pas. Maintenant, l'hypothèse la plus probable, c'est ce que vous disiez, c'est bien qu'il soit lui-même le transmetteur.
Oui, c'est en tout cas celle qui est privilégiée par les services vétérinaires. Et c'est aussi ce que Gilles Salva, directeur général de l'ANSES, m'a confirmé.
Alors on est sûr que ça s'est fait par l'homme, à la fois pour des raisons épidémiologiques et puis pour des raisons de chronologie de l'infection. Raisons épidémiologiques, ce sont les élevages français sont des élevages qui vivent en autarcie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'introduction d'animaux nouveaux dans ces élevages. Les reproducteurs sont issus des portées précédentes, donc on n'a pas d'échange d'animaux entre élevages. Et ensuite, le virus qui a été trouvé sur les visons en Eure-et-Loire était le virus qui circulait chez l'homme à cette période-là. Donc on a vraiment uniquement une contamination par l'homme du wison.
Donc a priori, les personnes qui entretenaient cet élevage auraient passé le virus à leur wison.
C'est l'hypothèse la plus vraisemblable qu'on ait et qui est étayée par un certain nombre de résultats qui ont été enregistrés par nos collègues de l'Institut Pasteur.
L'Institut Pasteur qui a analysé les prises de sang qui ont été effectuées. En tout cas, le résultat, c'est que 5000 visons ont été abattus.
Oui, du coup, eh bien, il n'y a plus que 3 élevages sur notre territoire. Un en Normandie, un dans l'Est de la France et un dans le Sud-Ouest.
Et dans cela, il n'y a pas de virus ?
Non, pour l'instant, non. Aucune contamination n'a encore été relevée. Mais tant que le virus circule chez l'homme, les élevages peuvent être touchés par leurs soigneurs.
En tout cas, pour l'instant, ce qu'on note, c'est qu'on a stoppé donc sa progression chez les visons. Cela dit, Anne, ce qui s'est passé en France, qu'on vient de raconter, c'est rien à côté de ce qui s'est passé dans d'autres pays.
Oui, et notamment dans les pays du nord de l'Europe, où on ne parle pas de milliers, mais de millions de visons. On a ainsi identifié le virus aux Pays-Bas, en Pologne ou encore au Danemark. C'est dans ce pays qu'on en a abattu le plus. Écoutez plutôt le récit de la correspondante de l'agence France-Presse à Copenhague, Camille Bavoler.
Le 4 novembre, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a décidé qu'il fallait absolument abattre la totalité du cheptel de visons danois, donc plus de 15 millions de bêtes. La plupart d'entre eux étaient enterrés, notamment sur des terrains militaires. Et là, il y a eu un nouveau problème. Les carcasses sont remontées à la surface, sous l'effet des gaz de putréfaction. Et on a commencé à avoir peur d'une pollution des nappes phréatiques, ce qui fait que les carcasses vont bientôt être déterrées pour ensuite être incinérées comme des déchets normaux.
Mais pourquoi avoir abattu autant d'animaux, Anne, y compris des animaux sains ?
Alors c'est vrai que sur les 1200 fermes d'élevage de visons du Danemark, il n'y en avait que 400 dont les animaux étaient atteints. Mais comme l'explique Gilles Salva, à l'occasion des prélèvements faits sur les animaux, les vétérinaires se sont aperçus que les visons contaminés représentait en retour un vrai danger pour l'homme face au coronavirus.
Le wison, parce qu'il a des récepteurs assez proches de celui de l'homme, va sélectionner des mutations qui ont plus d'affinité pour son récepteur. Et donc ces virus-là peuvent repasser à l'homme. Et on peut raisonnablement s'inquiéter, si on laisse circuler ce coronavirus chez le wison, que des variants vont ensuite poser des problèmes par rapport à la protection vaccinale, par exemple, ou par rapport à la protection des gens qui ont déjà été malades et qui pourraient être de nouveau malades avec un virus qui serait suffisamment différent pour qu'ils ne soient plus protégés contre le virus contre lequel ils ont été infectés initialement.
Et cette mutation si redoutée, elle s'est justement produite chez les visons danois, ainsi que nous le raconte encore Camille Bavoler.
En novembre, on se rend compte que parmi les mutations du coronavirus, il y en a une qui est particulièrement problématique, qu'on trouve chez les visons et qu'on a aussi trouvé dans 12 cas chez l'homme en août et en septembre. Et le problème que pose cette mutation du coronavirus, c'est qu'elle peut menacer l'efficacité du vaccin. Parce que le virus muté ne réagit pas aussi bien aux anticorps. Donc pour éviter de mettre à mal l'efficacité des vaccins, le gouvernement décide qu'il faut abattre tous les visons parce qu'on ne sait pas exactement s'il n'y a que 12 occurrences ou s'il y en a beaucoup plus.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors on va voir maintenant que le coronavirus actuel n'est qu'un virus parmi d'autres, Anne Brunel, parce que des virus qui nous menacent, il y en a en fait énormément.
Effectivement, ce n'est pas être alarmiste que de dire ça, c'est juste être réaliste. Des réservoirs de virus qui potentiellement pourraient nous affecter, il y en a bien plus qu'on l'imagine. C'est ce qu'observent les épidémiologistes et les écologues de la santé, comme Benjamin Roche, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, qui se trouve à Montpellier.
Toutes les grandes pandémies qui ont frappé l'espèce humaine au cours du XXe siècle étaient quasiment toutes des zoonoses, c'est-à-dire des microbes qui viennent de la faune sauvage et qui sautent sur l'espèce humaine avant de commencer à se transmettre dans la population humaine. Et on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir jusqu'à 1,7 million de virus qu'on ne connaît pas, qui circulent dans la faune sauvage, et entre 500 et 800 000 virus, donc qu'on ne connaît pas, qui peuvent potentiellement affecter l'homme.
500 à 800 000 virus qui sont potentiellement des zoonoses. Ça fait beaucoup, ça, mais est-ce qu'on est correctement armé face à cette menace, on va dire?
Ben pas vraiment, parce que pendant de trop longues années, les scientifiques n'ont pas pris la mesure de cette menace. Bien au contraire même, car comme l'a montré l'historien de la santé Patrick Zilberman, durant plus de 20 ans, on a cru que la médecine humaine avait triomphé des maladies infectieuses. Une conviction qui remonte aux années 60.
Il y a une préhistoire qui commence en 1967, lorsque le directeur général de la santé des États-Unis s'écrit lors d'un congrès que le chapitre des maladies infectieuses est clos. Autrement dit, grâce à la pénicilline, au DDT, etc., nous aurions finalement vaincu à cette époque, donc à la fin des années 60, les maladies infectieuses. Alors évidemment, il est immédiatement démenti par les faits, puisque quelques années plus tard, il y a l'apparition de nouvelles maladies, la maladie du légionnaire, par exemple, en 1976, Ebola, en 1976 également, et puis, bien sûr, au tout début des années 80, le sida.
Ouais, donc on a crié victoire un peu trop tôt.
Ah oui, et ce triomphalisme a conduit en quelque sorte à rendre les armes, ce qui, précise Patrick Zilberman, n'a pas été sans conséquences.
La première conséquence, ça a été la fermeture des laboratoires de recherche sur les maladies infectieuses. Puisqu'on les avait vaincus, il n'était plus question de dépenser de l'argent pour la recherche sur les maladies infectieuses. Ça, c'était un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les États-Unis se sont trouvés complètement démunis, désarmés face aux nouvelles maladies infectieuses. L'épidémie de sida, qui donc apparaît au début des années 1980, a bien évidemment renversé la vapeur et poussé, si vous voulez, la recherche à s'intéresser aux maladies émergentes, mais avec un temps de retard. L'Europe n'a été que suiviste en la matière. Et singulièrement en France, on a mis assez longtemps à prendre la chose au sérieux, jusque 2006, au moment de l'alerte à la grippe aviaire.
Et là, c'est l'inverse, Anne, c'est le branle-bas de combat.
Ah oui, ces épisodes de grippe aviaire enclenchent une forte mobilisation. Rappelez-vous, on développe un vaccin, on attend record, on en commande pour le coup suffisamment. Mais comme le déplore l'experte en surveillance des maladies animales et zoonotiques au CIRAD, Marisa Père, cette dynamique ne durera pas.
Quand la grippe aviaire a émergé en 2004, donc il y a eu beaucoup de moyens mis en place par tous les pays du monde et à l'échelle internationale pour limiter les risques d'émergence de la maladie et d'une pandémie. Quand le H1N1 pandémique a émergé au Mexique d'un élevage porcin, le monde entier était prêt. Les vaccins ont été produits en 9 mois. Les masques étaient là, les mesures pré-pandémiques et pandémiques étaient là. On était prêt. Donc ça, c'était en 2009. Il se trouve que la maladie n'a pas été aussi virulente et mortelle, puisqu'elle était le virus était assez proche du H1N1 qui circulait, donc avec une immunité de population qui était là quand même. Donc il y a eu beaucoup moins de morts, donc c'était beaucoup moins grave, donc ça a un peu fait flop. Mais on était prêts. Et là, 10 ans après, en 2020, le Covid-19 émerge, on n'a plus de masques, on n'a plus de plans, on n'est pas prêts.
Et on s'est donc trouvé à nouveau désarmé. Cette histoire, d'ailleurs, on la connaît, on vous l'a déjà racontée ici même dans Secret d'Info. Mais là où elle se corse, cette histoire, c'est que des zoonoses, on en voit de plus en plus.
En effet, il suffit de regarder un tout petit peu en arrière pour voir que le phénomène de transmission des virus de l'animal à l'homme s'est accéléré. C'est ce que nous explique l'éco-épidémiologiste Benjamin Roche.
Avant le XXe siècle, on a à peu près une pandémie tous les 100 ans. Depuis le début du XXe siècle, on en a déjà eu 6. En 2003, on a eu le premier SARS-CoV qui a émergé. En 2006-2007, on a eu l'émergence de la grippe aviaire. En 2010, on a eu la grippe H1N1 donc, qui a émergé chez les porcs au Mexique. Début des années 2000, on a eu le MERS-CoV, donc un autre coronavirus, chez les dromadaires dans la péninsule arabique. On a eu l'émergence de Zika, on a eu une nouvelle épidémie d'Ebola. Donc on savait que ces événements se multipliaient, augmentaient en fréquence, s'étendaient aussi de plus en plus. Au départ, c'était des épidémies circonscrites dans le temps et dans l'espace. Mais la connectivité mondiale augmentant en même temps, on savait qu'à un moment, on allait avoir quelque chose, une zoonose qui allait émerger et qu'on n'allait pas pouvoir contrôler. C'est ce que l'OMS avait d'ailleurs appelé la maladie X. Donc cette maladie qui n'a pas encore émergé, mais qui a un fort potentiel pandémique.
Oui, une maladie X qui pourrait bien aujourd'hui s'appeler la Covid-19. Alors on va s'interrompre un moment là-dessus, mais surtout restez avec nous. Nous allons voir dans un second temps que des zoonoses, désolé de vous le dire, mais il est très probable qu'on en subisse de plus en plus. Un son réverbéré, un air de 70s. Vous avez peut-être reconnu au passage Charlotte Gainsbourg qui fait une apparition dans le dernier album du groupe des Britanniques Django Django. Le titre que vous venez d'entendre, lui, s'appelle Waking Up.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Et on reprend notre voyage parmi les virus d'origine animale, ces virus qui provoquent des zoonoses. Anne Brunel, on a vu qu'ils seront de plus en plus nombreux, notamment à cause des voyages, on l'a évoqué rapidement, autour de la planète. Mais comment ils apparaissent, ces nouveaux virus ?
Eh bien, ce qu'on sait, c'est que l'émergence de ces maladies est en lien direct avec la perte de biodiversité.
Et quel rapport y a-t-il entre la biodiversité et les virus chez l'homme ?
Eh bien, ce qu'on observe, c'est que lorsque la biodiversité est riche, il existe ce qu'on appelle un effet de dilution du virus, ce qui le rend moins dangereux pour les animaux, donc pour les humains. Écoutez ce qu'en dit encore le chercheur Benjamin Roche.
On sait qu'il y a une relation entre perte de biodiversité et émergence des zoonoses à peu près depuis le début des années 2000. On s'est rendu compte de ce qu'on a appelé l'effet de dilution, c'est donc cette idée que effectivement une forte biodiversité permet de diluer la transmission des microbes dans la faune sauvage. Donc depuis le début des années 2000, on savait que cette perte de biodiversité qui en plus se conjuguait avec des activités humaines qui amènent les populations humaines de plus en plus proches de la faune sauvage, la déforestation, l'agriculture intensive, l'urbanisation, faisait qu'on avait un cocktail parfait avec d'un côté une faune sauvage qui était de plus en plus infectée et de l'autre côté les populations humaines qui sont de plus en plus exposées à cette faune sauvage, elle-même de plus en plus infectée.
Donc l'accroissement de l'urbanisation, de l'agriculture intensive, la déforestation favoriserait l'apparition de nouveaux virus ?
C'est ça, et des études épidémiologiques l'ont largement démontré, notamment aux États-Unis.
Dans les États où il y avait le plus de déforestation, dans les États où la biodiversité était le plus détruite, on se rendait compte qu'on avait une augmentation des cas de maladies de Lyme sur les dernières décennies aux États-Unis. On a vu un peu la même chose aussi sur la fièvre du Nil occidental, donc la fièvre West Nile, qui est arrivée aux États-Unis à la fin des années 90. Là, cette fois-ci, c'est un virus qui est transmis par des moustiques à différentes espèces d'oiseaux. Et on s'est rendu compte que les états où il y avait le moins de cas de West Nile étaient aussi les états où il y avait le plus de diversité d'oiseaux. Un dernier exemple qui est assez frappant aussi, c'est le cas du virus Ebola en Afrique. Ces émergences pour le virus Ebola en Afrique, on s'est rendu compte que c'est principalement dans les zones déforestées. Parce que ça fait que les chauves-souris vont se déplacer des écosystèmes forestiers de plus en plus près des villages et des villes qui se situe autour de ces écosystèmes forestiers qui sont dégradés. Et c'est là où on commence à avoir des premières transmissions du virus de la chauve-souris à l'homme et ensuite la propagation interhumaine qui prend le relais.
Mais ça veut dire que nous serions en partie responsables des nouvelles maladies qui nous affectent ?
Exactement, et ça implique donc, si on veut en prévenir l'émergence à l'avenir, de mieux surveiller la vie animale, et notamment dans les endroits où il y a de fortes interactions entre l'animal et l'homme.
Ouais, d'où l'intérêt de faire travailler ensemble des vétérinaires et des médecins.
Oui, mais ce type de démarche plus interdisciplinaire, on l'a déjà mis en œuvre dans beaucoup de pays. Les épidémiologistes et les écologues de la santé ont initié de véritables réseaux de surveillance en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. La chercheure du CIRAD, Marisa Peyre, a notamment travaillé sur l'implantation d'un tel réseau en Indonésie.
Les chercheurs sont allés discuter avec les vétérinaires qui travaillaient avec les éleveurs, avec les chefs de village. Du coup, ils ont construit une application mobile sur le téléphone. Et donc, quand un événement se passe chez l'animal, l'éleveur va contacter le vétérinaire. Tous ensemble, ils vont remplir cette application mobile en mettant des informations. Ces informations sont partagées en temps réel avec tous les gens qui ont l'application. Et en gros, ils savent quelle est la situation dans leur village de la maladie. Si on prend l'exemple de la grippe aviaire, bon ben voilà, ils savent que il y a des fermes infectées dans des villages limitrophes. Mais les vétérinaires au niveau de la région et au niveau national peuvent utiliser toutes ces informations qui proviennent des régions pour faire des analyses de risque. En Indonésie, 5 millions d'éleveurs sont doté d'une application comme ça.
Oui, c'est un peu l'appli tous anti-Covid adaptée aux éleveurs. Ça se fait ailleurs d'ailleurs ?
Oui, en Afrique de l'Ouest, notamment avec des chasseurs. Et l'éco-épidémiologiste Benjamin Roche, qui représentait la France lors du One Planet Summit en janvier dernier, pense que ça va se généraliser, notamment pour une raison très simple, c'est que prévenir les pandémies, ça coûte infiniment moins cher que de les subir.
Il est clair qu'aujourd'hui, l'immense majorité des pays, quel que soit leur régime politique, adhèrent complètement à ce type d'approche de prévention des pandémies, parce que le retour sur investissement, il est sans commune mesure. Il y a eu des études qui ont montré que prévenir les pandémies ne coûterait que 1% de ce que peuvent coûter la gestion ou le contrôle d'une pandémie, sans parler bien sûr de tout le poids sanitaire. Ce retour sur investissement énorme, bien sûr, fait que les différents gouvernements de tous les différents pays se lancent dans ce genre d'initiative pour arriver à prévenir l'émergence de zoonoses.
Et donc lui, il est plutôt optimiste.
Oui, parce que les choses avancent. En témoigne justement ce One Planet Summit qui a rassemblé au début de l'année à Paris 1 millier de chercheurs des 5 continents en vue de renforcer dans le monde entier ces réseaux de santé humaine, animale et environnementale.
Ouais, sauf que tout le monde ne partage pas cet optimisme.
Oui, c'est vrai. Alors si tout le monde adhère à cette démarche qu'on appelle le One Health, la santé unique, certains ont le sentiment que les choses vont quand même encore trop lentement. C'est notamment le cas de l'historien de la santé, Patrick Zilberman.
Cette articulation entre médecine humaine et médecine vétérinaire, elle commence à se faire dans les pays de l'hémisphère nord. Par conséquent, on en est encore très loin dans les pays du sud, parce que ça suppose des moyens, parce que ça suppose des universités performantes, parce que ça suppose des organismes de recherche performants. Les pays du Sud étant démunis et faute d'être en mesure eux-mêmes de se défendre, font appel à l'OMS, ils ont parfaitement raison, c'est le rôle de l'OMS d'intervenir dans cette affaire, sauf que l'OMS, alors qu'elle est censée être la coordinatrice de la santé mondiale, elle est à la traîne, si vous voulez. Gro Harlem Brundtland, qui avait été la directrice générale de l'OMS à la fin des années 90, disait qu'il était à peu près équivalent, ce budget, à celui d'un hôpital britannique de moyenne taille. Donc vous voyez, il y a de gros problèmes de financement, il y a de gros problèmes de pouvoir aussi à l'intérieur de l'OMS qui font que le One Health, c'est une très belle idée, mais c'est une idée qui a, pour l'instant, encore du mal à s'implanter.
Donc, on est encore loin d'être sorti de l'auberge.
C'est vrai. Le risque, c'est qu'au rythme où vont les choses, la Covid-19 ne soit qu'une manifestation d'un phénomène qui nous affectera de plus en plus. Des virus d'origine animale, on en verra apparaître de nouveau dans les années qui viennent. Et surtout, des virus auxquels on ne sera pas forcément préparé.
Bon, ben merci Anne Brunel de nous avoir plombé le week-end. Au moins, grâce à vous, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Alors, je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et aussi sur l'appli France Inter. Vous pouvez au passage nous y laisser vos commentaires. Vous pouvez également le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Kevin Pelot. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. Après le flash, Emmanuel Kérad recevra le romancier Julien Sandrel et Florence Sestac qui viendra lui parler de sa nouvelle BD qui a été préfacée par Daniel Pénac.